Salut les amis et bienvenue dans votre rendez-vous foot sur tendanceouest.com et sur Tendance Ouest. Chaque semaine, vous avez rendez-vous avec tout le ballon rond en Normandie, le Stade Malherbe de Caen et le HAC en Ligue 2 évidemment, mais aussi, et ce sera plus que jamais le cas dans cette émission, avec le foot en région, le foot régional. On ira voir notamment du côté de la Seine-Maritime. Est-ce que le département de Seine-Maritime, après son élection de district, est en chasse de la Ligue de Normandie? Vos questions et bien des réponses avec nos spécialistes aujourd'hui, des spécialistes qui ont suivi aussi les matchs du Havre et de soi régalé, loin s'en faut, dans la dernière journée de nos deux équipes professionnelles. On va débriefer tout ça avec notre coach qui est de retour. Bonjour Johan Gallon.
Bonjour à tous.
Bonjour à vous, Marco Beau du Courrier Cauchois.
Bonjour tout le monde.
Et bonjour à vous, Christophe Lécuyer d'RMC Sport.
Salut Sylvain, bonjour à tous.
Bon messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet. La semaine passée, on a commencé par le HAC. Cette semaine, on commence par le Stade Malherbe. Et je me tourne vers vous, Christophe Lécuyer. On l'a commenté chacun pour nos médias, ce camp Chambly. Tristesse, on ne va pas se mentir, en termes de jeu, tristesse en termes de score. Votre analyse, est-ce qu'elle est tout bonnement la même que Pascal Dupresque, qu'aurait dû perdre ce match selon vous?
Aurait dû, je ne sais pas, aurait pu, certainement, effectivement. Ça faisait honnêtement bien longtemps qu'on n'avait pas assisté, je crois, à un match aussi insipide à Dormano. Il a fallu quasiment un but contre son camp d'un camblisien pour qu'on ait un frémissement ou qu'on puisse penser assister à un but parce que c'était assez tristouné. Maintenant, bah, je crois que ça nous a rappelé aussi que la Ligue 2, c'était parfois ça. Et que autant il fallait pas tomber dans un triomphalisme débordant après les trois premières journées, autant je pense qu'il faut pas non plus tout remettre en cause après un match comme celui-là. Pascal Dupraz l'a analysé, effectivement, son équipe n'a pas fait un grand match. On pouvait pas dire autre chose que ça. Ce qu'il va falloir, c'est effectivement que Pascal Dupraz trouve les solutions quand eh bien, ce genre de scénario se reproduira, parce qu'il y en aura d'autres cette saison, c'est une certitude, et force est de constater que face à un bloc regroupé comme celui du FC Chambly samedi, eh bien, le Stade Malherbe n'a pas réussi à trouver les solutions.
Coach Gallon, on a eu un Malherbe sans solution, comme vient de le préciser Christophe Lécuyer. On a eu un Malherbe friable aussi défensivement, et ça c'est peut-être une nouveauté aussi, qui aurait pu encaisser des buts par cette équipe camblisienne. Votre analyse de cette rencontre, c'est laquelle?
Moi j'ai un œil différent peut-être du vôtre, et je me mets à la place du groupe, du coach. Je pense qu'il y avait un manque de fraîcheur mentale et physique sur cette rencontre. Il faut savoir qu'avec le Covid, on a quand même eu une préparation tronquée, encore plus au haut niveau, où ils ont fait 4 semaines, une semaine de repos, 4 semaines. Ils ont beaucoup travaillé et je pense qu'il faut prendre en compte aussi tout ça. Et je pense qu'on va tous le rencontrer à un moment donné. Et quand vous avez moins de fraîcheur physique, vous avez moins de fraîcheur mentale, vous êtes moins bon dans vos choix de jeu, vous voyez moins le jeu. Et j'avais l'impression de voir cette équipe de Caen dans cet état d'esprit samedi, parce que ça ne correspondait pas du tout aux autres matchs que j'avais pu voir précédemment, et où je trouvais justement une très bonne dynamique, avec un jeu différent de l'année dernière. Voilà, donc ça peut être ça. Est-ce que Pascal Dupraz n'a pas voulu en parler? Mais moi, j'ai l'impression que c'est ça. Voilà. Après, je me trompe peut-être, mais j'ai trouvé une équipe en manque d'imagination. Et puis, vous avez pu le dire, assez friable sur les phases de transition. Parce que quand vous jouez contre un bloc bas comme Chambly, il faut faire le jeu. Quand on n'avait pas les moyens de faire le jeu sur ce match, et à quoi vous pouvez vous exposer? C'est la transition et à la récup, cette équipe de Chambly qui se projette très vite vers l'avant et qui peut vous inquiéter. Et je pense que Chambly n'était pas loin de réaliser un grand coup à Dornano samedi. Mais il y a aussi autre chose que je vois, c'est que quand, peut-être que l'année dernière, ce genre de match, ils l'auraient perdu. Et là, ils ne l'ont pas perdu. Donc la série est toujours en cours, et ça, c'est important pour l'état d'esprit.
Ça a d'ailleurs été un peu aussi la ligne de communication, Christophe, de Pascal Dupraz après cette rencontre. Oui, certes, c'était pas un bon match. Oui, certes, ça a fait 0-0 contre Chambly, sans manquer de respect à Chambly parce qu'ils sont venus jouer exactement avec leurs atouts. En revanche, quand à 8 points, c'est peut-être ça aussi qu'il faut retenir, Christophe.
Et c'est tout à fait ce qu'a dit Pascal Dupraz. Hein. On ne va pas effectivement revenir en détail sur ses déclarations en salle de presse, mais oui, c'est ça. En substance, c'est ça. C'est je suis partagé entre le fait que mon équipe soit passée à côté pour toutes les raisons que j'évoquais tout à l'heure et que coach Gallon évoquait aussi. Évidemment, ce manque de fraîcheur, ça fait indéniablement partie des explications. Mais à côté de ça, et oui, ne pas tout remettre en cause, car Caen a quand même glané 8 points sur les 4 premières journées. Alors, il ne fallait pas penser tout de suite qu'on allait monter en Ligue 1 en un claquement de doigts après les 3 premières journées. Je pense qu'il ne faut pas non plus tout remettre en cause après cette prestation. faut encore une fois rappeler que Caen ne l'a pas perdu ce match. Caen aurait pu le perdre, mais Caen ne l'a pas perdu. Caen a enchaîné un nouveau clean sheet. Même si les Canets, on l'a dit, ont été un peu plus friables sur cette rencontre, ils n'ont pas pris de but, les Canets. Et voilà, la dynamique comptable est quand même intéressante pour le Stade Malherbe.
C'est important pour vous, ça, coach, en tant que coach, justement, que consultant. Est-ce que vous avez un œil extrêmement précis et pointu sur le fait que Caen n'a toujours pas encaissé de but en 4 journées? Est-ce que c'est un ingrédient essentiel selon vous?
Pas dans la position de Pascal Dupraz et des joueurs de Caen, mais est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont vraiment travaillé cette année? D'être plus solide, d'être moins friable, de concéder moins d'occasions, et qu'ils ont vraiment accentué la prépa là-dessus? Et bien, en tout cas, si c'est le cas, ils sont récompensés parce qu'ils ne prennent pas de but. Puis il faut savoir dans le football que quand vous ne prenez pas de but, vous avez plus de chances de gagner un match. Après, chacun sa philosophie. Moi, je pars de notre principe, c'est que j'ai toujours envie de marquer un but de plus que l'adversaire. Mais quand vous en prenez un de moins que l'adversaire, vous gagnez aussi. Donc, les deux cas se défendent. Mais en tout cas, quand vous avez vraiment une force, ça donne une force au groupe et ça solidifie l'état d'esprit du groupe. On se sent plus costaud. Et je pense qu'à partir de là, on peut développer du jeu, on peut développer autre chose. Et
si vous disiez tout à l'heure, coach, que Pascal Dupraz avait changé, que le jeu de Caen avait changé. En quoi il a changé par rapport à l'an dernier?
Sur ce match-là, on n'a pas trop d'enseignements à en tirer, mais sur le dernier match qui était à domicile, j'ai trouvé une équipe qui était capable d'avoir un peu plus la possession, qui était capable de chercher des équilibres, répéter des passes, une équipe qui avait envie de maîtriser le jeu, le jeu et avoir un peu plus la possession que l'année dernière. On était très souvent sur la transition, avec du jeu rapide vers l'avant, des ballons perdus, et on n'avait pas ces temps de possession qui nous permettent déjà de se rassurer techniquement, de trouver le déséquilibre et de faire courir l'adversaire. J'ai trouvé ça déjà beaucoup mieux. Voilà. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a un an de vécu? Est-ce que c'est parce que l'année dernière, il était quand même dans l'état d'urgence de vite prendre des points pour rétablir un niveau où quand on se sent un peu plus tranquille, dans des eaux tranquilles, et que cette année, il impose vraiment autre chose? Mais je trouve un Stade Malherbe différent. Un, ils prennent pas de but. Deux, ils sont capables de faire du jeu. Et sur ce match-là, eh ben, ça arrive. Ça arrive. Des fois, ben, vous êtes moins performant. Mais ce qui est moins inquiétant, c'est que c'était une performance collective. Et j'ai trouvé plusieurs joueurs en dessous. Donc ça se rapproche peut-être de ce que je vous expliquais tout à l'heure. Peut-être qu'il y a un coup de moins bien dû à la préparation, à cet effet Covid. Mais c'est quelque chose, quand vous êtes coach, qui est tout à fait normal. Et ça, il faut le comprendre. Et dans ces moments-là, il faut protéger vos joueurs et surtout pas les attaquer, parce que je pense qu'ils ont essayé de faire le mieux possible.
C'est d'ailleurs ce qu'a très bien fait Pascal Dupraz en salle de presse, effectivement. Christophe Lécuyer d'RMC Sport. Prochain test du côté de Valenciennes à l'extérieur. Alors là, on sort d'une équipe face à Chambly et face à Rodez, à peu près le même style d'équipe, des équipes qui sont montées l'an passé, qui doivent confirmer cette année, qui ont des atouts assez différents que ceux que va probablement exposer Valenciennes samedi prochain dans son antre à domicile avec une vraie envie de l'emporter pour les nordistes. Est-ce que c'est, selon vous, le premier gros test à l'extérieur pour Caen cette saison?
Bah, c'est un vrai test, en tous les cas, c'est sûr. Moi, je pense aussi que ça va sûrement mieux convenir à cette équipe du Stade Malherbe que ce qu'a pu proposer le FC Chambly le week-end dernier. Et puis, voilà, Valenciennes, ça a aussi une connotation de Ligue 1. C'est un ex-club de Ligue 1. C'est un club qui va vouloir jouer à son domicile. Vous l'avez dit fort justement. Un impératif de résultat. Je crois que sont 8e, les Valenciennois. Donc, au niveau des temps de passage, ça va, mais faut pas perdre de temps non plus. Et puis, oui, on attend un petit peu les Canets parce qu'effectivement, il y a eu un petit peu cette incompréhension de Pascal Dupraz lui-même sur la prestation livrée face à Chambly. Donc, on a envie de voir si effectivement c'était peut-être juste un coup de moins bien, s'il y avait un manque de fraîcheur, ce qui est encore une fois très probable. On va voir effectivement si ça se répète ou si tout de suite les Canets reviennent dans le ton face encore une fois à une équipe qui fera partie des équipes sur lesquelles il faudra compter cette saison, je pense.
Côte Galon, justement, qu'est-ce qu'il va falloir faire cette semaine pour réagir?
Ben, il faut vite passer à autre chose. Voilà, il faut pas s'arrêter. Il y a des moments où vous arrêtez sur ce que vous faites de mal et vous mettez vraiment le doigt dessus et vous travaillez. Et puis il y a des moments où il faut vite passer à autre chose et repartir sur ce que vous faisiez de bien. Voilà, donc ça dépend des moments de la saison. Mais en l'occurrence, la chose est sûre, c'est qu'il faut de la fraîcheur, parce que pour connaître un peu le coach de Valenciennes, parce que j'ai joué avec lui et puis je connais un peu le personnage, il va falloir répondre fort dans l'intensité. Parce que Valenciennes va mettre beaucoup d'intensité, c'est un coach qui aime l'intensité, qui aime le duel, et je pense que ça risque peut-être d'être un match très âpre. Moi, je vois un match avec beaucoup de duels, et l'équipe qui utilisera le mieux le ballon, qui arrivera à gérer ses temps de possession, arriver à trouver Je vois pas un match fou, je vois juste il va falloir que Kang passe un cap, et c'est pour ça que ça me rassure par rapport, pas à la dernière prestation, mais avant, d'être capable d'avoir un peu plus sa possession, parce que ça risque d'être un match un peu foufou, et avec beaucoup de duels, je pense.
Alors, il y a un joueur qu'on attend aussi au virage et il a été un peu le centre de l'actualité dans ce match face à Chambly et plus largement sur le début de saison, c'est Jesse Demingue. Alors, vous parliez tout à l'heure de possession, coach Gallon, vous aussi, Christophe Lécuyer. Est-ce qu'il la possède pas un peu trop la balle, Jesse Demingue, quand il l'a, on a la sensation, soit il n'a pas la confiance, soit il la garde de trop. C'est quoi votre analyse, coach, là-dessus?
Je pense qu'il y a plusieurs facteurs, et ça, il faut être dans la tête de Jesse Demingue. Jesse Demingue, il a quand même fait l'année dernière, je pense, ça a été celui qui a fait la meilleure saison au Stade Malherbe. Je pense qu'il est sollicité. Je pense qu'il se pose beaucoup de questions. Et je n'ai pas l'impression de voir le Jesse qui était le joueur important l'année dernière où beaucoup de ballons passaient par lui. J'ai l'impression que je vois un joueur qui est un peu intrigué, qui a envie de bien faire parce que c'est un très bon garçon. Mais je ne sens pas un joueur libre dans sa tête, et forcément qu'on le retrouve moins libre dans son jeu, avec plus de déchets qu'à son habitude. Enfin, c'est comme tout à l'heure, quand je vous donne des explications, c'est un ressenti. Mais c'est vrai que. Ou alors est-ce qu'il se met une forte responsabilité? On lui a donné une forte responsabilité de faire le jeu, et qui, dans ce début de saison, c'est un peu plus dur pour lui. Mais il y a quelque chose qui dépasse uniquement le terrain, je pense.
Alors ça, c'est pour l'analyse de Jesse Demingue. On a à l'inverse un Anthony Gonzalez qu'on n'avait pas vu performant comme lors des deux derniers matchs depuis bien du côté du Stade Malherbe. Est-ce que ne plus avoir le brassard de capitaine pour Anthony Gonzalez n'est pas un poids en moins, selon vous, Christophe, peut-être?
Ouais, bah je rejoins le coach, hein. Vous savez, c'est une question de pression là-dedans. Et Jesse, c'est aussi ça. L'année dernière, effectivement, il n'avait pas cette pression sur les épaules qu'il peut avoir cette année. Et ça vaut aussi pour Anthony Gonsalves. Le fait de ne plus l'avoir le libère peut-être inconsciemment. Je ne sais pas, hein, ce sont des explications, encore une fois. On n'est pas non plus dans la tête des joueurs, mais je pense que la confiance joue
Oui, mais de
beaucoup.
là à transformer de la sorte leurs prestations d'un sens et de l'autre, pour du
Bien
coup,
sûr,
il y a
bien sûr.
forcément un facteur.
Ouais, et je pense que le facteur confiance joue pour beaucoup. On va pas s'enflammer sur Anthony Gonsalves, mais on va pas non plus s'alarmer pour Jesse Demingue. Je pense que ça va repartir. Il faut que voilà, il retrouve un peu cette réussite aussi qu'il avait sur les coups de pied arrêtés. Faut peut-être un petit but qui soit l'élément déclencheur. Faut que ses partenaires arrivent à le trouver au bon moment. Et puis il faut que bah, voilà, effectivement, l'équipe a moins joué aussi samedi dernier contre Chambly. On sait que Jesse a aussi besoin d'une équipe qui joue autour de lui pour arriver à se mettre en valeur. Donc voilà, encore une fois, on est qu'au début de la saison. On va pas s'enflammer sur ceux qui vont très bien, même si on peut s'en satisfaire, et on ne va pas non plus déjà mettre au pilori ceux qui vont un petit peu moins bien. Je crois qu'il faut un petit peu du temps pour que chacun arrive à trouver son rythme.
Trouver du rythme, il va falloir aussi que ce soit le cas pour les nouveaux, à commencer par Johan Cour qui a débarqué libre depuis Brest il y a quelques jours de cela du côté du stade Michel Dornano. Alexandre Mendy, le Bordelais, devrait suivre dans très peu de temps. Alors on parle de plus en plus d'un jeune défenseur russe qui serait pour du coup plus lui un pari, des informations confirmées et affirmées notamment par Olivier Piqueux au micro de nos confrères de la chaîne Téléfoot. C'était dimanche matin. Messieurs, le mercato. Il reste encore allez, une quinzaine de jours du côté du Stade Malherbe de Caen. Jeudi, on passe à la DNCG avec le nouveau projet Octri-Capton en ligne de mire. Est-ce que, tout simplement, coach Gallon, est-ce que ça va changer quelque chose dans les 15 derniers jours du mercato cannais de passer devant la DNCG, de très probablement voir la mise en encadrement de masse salariale levée? Est-ce que ça va changer des choses selon vous?
Je pense que ça va changer beaucoup de choses parce que moi, je lis, j'entends, j'écoute. Caen est en train de recruter. Alors qu'il faut, on dit que Caen aujourd'hui vit comme un club de Ligue 1. Donc c'est qu'il va falloir qu'il se passe quelque chose. Là, on amène des plus-values parce qu'en plus, je pense que les recrues Cour, en effet, est une bonne recrue. Donc ça, c'est très très bien. Mais il va être obligatoirement, il va y avoir des départs.
Ah bah il y en a 6 d'annoncés sur le départ aussi, hein, voilà, dans
Alors
différents clubs.
après, si sur le départ, ok, mais si vous perdez quand même des piliers de votre équipe, attention, donc parce que qu'est-ce qui va partir? C'est sûrement des gros salaires. Vous n'allez pas faire partir des petits salaires des jeunes à tout prix qui sont des premiers contrats qui ne coûtent pas cher au club. Donc qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, je sais pas trop, mais il va se passer quelque chose. Est-ce que j'ai si demingué dans la bascule? Je ne sais pas. Donc pour étayer un peu mes propos de tout à l'heure. Et on sait les gros salaires du club aujourd'hui. Mais si. C'est pour ça que Pascal Dupraz doit se poser beaucoup de questions
Ah
entre
oui.
les arrivées, les joueurs qui doivent partir. Peut-être que l'équipe dans un mois, ça ne sera même pas du tout la même qu'on a aujourd'hui. Donc, faut être...
on l'avait déjà dit, ça, Christophe Lécuyer d'RMC Sport. On avait déjà dit, l'équipe de la première journée ne sera absolument pas la même que celle de la septième journée. On a la sensation que dans les 15 derniers jours de Mercato, on se dirige vers ça du côté du Stade Malherbe.
Ah, moi, j'ai cru comprendre qu'on allait prêter 7 joueurs à l'US Granville. Donc, je plaisante évidemment, mais oui, là aussi, je rejoins coach. Tout dépend si Caen recrute pour se renforcer ou si Caen va recruter pour compenser des éléments importants de son effectif susceptible de partir. Évidemment, si demain il s'agit de remplacer Prince Onyangé, Jesse Demingue ou Yacine Bamou, pour citer les trois-là, ce n'est pas la même chose que si vous devez dégraisser votre effectif en libérant 3 ou 4 joueurs qui sont en manque de temps de jeu. Mais cela, il va falloir leur trouver une porte de sortie et on sait que ce n'est pas forcément chose aisée. On l'a vu quand même depuis 2 ans, quand bien même on peut espérer que l'arrivée d'Olivier Piqueux facilite un petit peu ça. Mais effectivement, l'interrogation aujourd'hui, c'est celle-là. Je rejoins coach, Caen va recruter, mais on sait aussi que Caen a besoin de dégraisser. Or, ce n'est pas forcément les joueurs qu'on a envie de libérer, qu'on va réussir à libérer dans ce money time. Donc, effectivement, si demain les recrues compensent des joueurs importants de votre effectif aujourd'hui, Jesse Demingue, Prince Onyangé, Yacine Bamou, c'est 3 joueurs qui sont titulaires le week-end dernier. Donc, effectivement, ceux-là, ils ne sont pas partis. On a bien compris que la volonté des dirigeants et du coach, c'était de les garder. Il a été assez clair, en tout cas sur Yacine Bamou et sur Jesse Demingue. Mais est-ce que ça va se passer comme ça dans les faits, dans les jours prochains? La question, elle est là.
Est-ce que c'est un premier test, un premier point de passage important pour Olivier Piqueux et la nouvelle direction, Christophe?
Bah oui, inévitablement. Oui, parce que c'est vrai qu'on a pas mal pensé Johan Nedlin. Enfin voilà, il a pas forcément été épargné par les critiques. Alors sans tout lui remettre évidemment sur le dos, mais quand vous êtes directeur sportif, bah, évidemment vous êtes jugé avant tout quand même sur votre capacité à recruter. Hein. C'est, oui, voilà. Oui. Et à construire un effectif et à trouver des portes de sortie pour ceux que vous souhaitez libérer. Alors effectivement, tout ne lui incombe pas, mais c'est vrai que l'été dernier a été assez compliqué pour plein de raisons. Cette fois, Johan Hedlin est toujours là. Il va travailler en plus avec Olivier Piqueux, qu'il connaît très bien, puisque les deux hommes ont collaboré ensemble au SCO d'Angers. Évidemment, on va voir si effectivement ceux à qui on n'a pas réussi à trouver de portes de sortie jusqu'à présent, eh bien, si demain on réussit à leur trouver un projet pour alléger justement donc cet effectif et en même temps cette masse salariale, ce qui facilitera d'autant plus évidemment la capacité du club à recruter. C'est déjà un premier test, oui, pour les Piqueux, c'est sûr.
On verra ce que cela va donner ces 15 prochains jours de Mercato, les 15 derniers de ce anormalement long, dans une anormale période Mercato estivale pour le Stade Malherbe de Caen. On va voir aussi ce que cela va donner, n'oubliez pas, et notez sur vos tablettes supporters du Stade Malherbe, c'est samedi soir 19h, Valenciennes, Stade Malherbe de Caen. On passe la Seine, on passe le pont de Normandie, on va rejoindre Marc Aubot pour parler du hack, évidemment, avec Christophe Lécuyer, avec le coach aussi, parce que les Havrais, bah, ils n'ont pas connu une bien meilleure soirée. Disons qu'ils ont, eux, encaissé le but. Oui, voilà, parce qu'il y a eu des fêtes, mais il y a eu un but d'écart. Il y a eu également un carton rouge, comme à Caen. C'était pas un grand match, c'était pas une grande soirée. Et c'est loin d'être un grand résultat face à Niort, Marc.
Oui, pourtant, ça avait bien débuté. Hein. La première mi-temps, j'ai bien aimé la première mi-temps. On a été même enchantés de voir deux excentrés, Cornette et Alioui. Bon, ils permutaient, hein, une fois c'était à gauche, une fois c'était à droite, mais honnêtement, c'est la première fois depuis très longtemps qu'on n'avait pas vu des joueurs au Havre autant provoqués. D'habitude, ils aiment bien faire circuler le ballon, mais il manquait des joueurs qui percutent, qui dribblent, qui tentent. Là, Cornette et Alioui, c'était plaisant, ils tentaient. Il y a eu une super occasion pour Jean-Pascal Fontaine, justement, qui venait de la droite, et il centre et tout. Et puis, de manière, mais on n'arrive pas à l'expliquer, la deuxième période, on les a pas reconnus. Quoi. Ils ont été méconnaissables. Et on se demandait, c'était pas la même équipe qui était sur première mi-temps et en deuxième mi-temps, c'est pas possible.
Et puis après. Est-ce que l'on peut reproduire ? Je vais revenir avec vous, Marc, dans quelques instants, mais là, ça m'interpelle. Parce que coach Gallon, il y a quelques instants, pour le cas du Stade Malherbe, nous expliquait qu'il n'avait pas reconnu certains joueurs sur le plan athlétique. Est-ce que c'est pas là qu'est l'explication de la chute du Havre en deuxième mi-temps face à Niort, coach ? L'aspect physique, pareil, même système, même moment.
Mais bien sûr, que ça soit de toute façon, que ça soit au niveau en professionnel ou en amateur, moi je contre Caen samedi avec des joueurs plus de jambes à la mi-temps. Pour certains, on s'est même posé des questions, pas très bien, mal de tête. On ne sait pas ce qui se passe. C'est pour ça, des fois, on a une analyse extérieure, mais on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur du groupe. On ne sait pas l'état athlétique des joueurs, on ne sait pas plein de choses. Donc, c'est sûr que parfois, vous ne savez pas pourquoi, vous perdez le fil conducteur en 15 minutes, alors que les 15 minutes sont faites pour donner des consignes supplémentaires, pour essayer de gommer les défauts, essayer de trouver les solutions, et puis vous rattaquez la mi-temps, et puis bah, vous sentez votre équipe, elle a moins de jus, elle est moins vive, elle est moins dans la compréhension. Donc ça peut aller vite. Par contre, pour répondre à ce que tu viens de dire, aujourd'hui, pourquoi on voit des joueurs un peu avec une animation différente? C'est que je pense que le fait que Le Havre ait perdu certains joueurs très importants de son équipe, ça permet à d'autres joueurs de se libérer et de devenir des joueurs un peu plus importants. Et en tout cas, leurs deux joueurs excentrés, c'est des joueurs aujourd'hui qu'on leur fait confiance, ils sont libérés parce qu'ils ont pas, il n'y a pas la pression peut-être de ces autres joueurs qui étaient des piliers de l'équipe et qui, eux,
De
voulaient
recrues. Hein.
jouer d'une certaine façon.
Mais oui, c'est pour ça que c'est les deux
Alioui,
recrues, Marc, effectivement. Oui, Alioui et Cornet, c'est deux recrues. Ouais.
les deux recrues. Mais
Exactement.
après, ouais, pour compléter ce que dit Johan, justement, Paul Le Guen, conscient de la situation, il procède à deux changements et il y a l'expulsion de Bemba qui est juste derrière. Donc justement, il voulait apporter du souffle nouveau. Et malheureusement, il y a cette quatrième expulsion depuis le début de saison de Bemba à la 61e. Et après, voilà, donc ça a commencé la deuxième mi-temps. Mais après l'expulsion, à 10, il se regroupe. Et puis, c'est ce qu'il dit, Paul Le Guen. Hein, il dit, lui, il visait vraiment le 0-0. Il dit, ça aurait été un très bon 0-0 pour nous, quoi. Et puis, malheureusement, il y a ce but-là de... j'ai oublié son nom. Aidez-moi. À la
Ah, je vais pas
90e.
vous aider. Je suis pas très niortais, moi. Je vais pas vous aider.
Si, si. Hop, en plus, je l'ai marqué tout à l'heure. Kemen.
Pardon.
Excusez-moi.
Voilà,
Kemen qui
Olivier
marque
Kemen,
à la 90e minute.
l'ancien Lyonnais.
Et voilà. Peut-être, voilà, manque de fatigue. Il y a Ben Mohamed qui est à côté du joueur et il monte pas dessus, il bouge pas l'angle. Et Kemen a tout le temps de frapper, d'ajuster sa frappe. Et la frappe est magnifique. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu, mais le but est magnifique en plein sous la barre transversale.
Elle est très très belle. Il n'empêche que pour Le Havre, Marc, on est confronté à un nouveau souci. Ça sort d'une belle performance à Guingamp, un gros considéré comme étant un gros du championnat. Derrière Niort, quand bien même les Niortais, et c'est évidemment tout à leur honneur, ont fait un excellent début de championnat, ça n'en reste pas moins un club qui ne joue pas forcément la montée et n'a pas le prestige des derniers clubs qui sont allés voir la Ligue 1. La confirmation, on l'attendait à domicile, on a l'impression de revivre des scènes que l'on vit depuis des années, Marc.
L'année dernière, on avait bien commencé, on était leader au début de saison.
Oui, mais les
Hein.
confirmations
Justement, ça change un peu.
de
Là, on se
face à
dit, tiens,
terre.
on fait un mauvais début de championnat, peut-être qu'ils vont réussir une bonne fin de championnat. Non, mais je rigole, mais c'est vrai oui, on est d'accord avec vous, on se pose des questions. Après, Niort est leader. L'année dernière, Niort avait fait un bon début de championnat aussi, et après, ils avaient connu une période. Est-ce que la préparation d'un club de Niort est différente du Havre? Le Havre, peut-être qu'il fait
Après,
un peu de
question,
pression
coach, est-ce que la
pour. Voilà.
préparation de Niort peut être différente de celle du hack, coach? En gros, est-ce que la préparation est différente quand on joue le maintien ou quand on joue la montée?
Oui, ça peut être complètement différent. Il y a des équipes qui se préparent pour durer sur le long terme, et il y a des équipes qui se préparent pour très vite prendre des points parce qu'ils savent que le championnat va être très long. Donc on peut avoir, alors dans l'ensemble, c'est beaucoup dire ça, mais on essaie de se préparer un peu tous de la même façon. Mais on va peut-être intensifier un peu moins ou mettre moins de volume dans les 15 derniers jours pour avoir plus de peps dès le début du championnat. Alors qu'il y en a d'autres, on va continuer à travailler. Pour moi aujourd'hui, enfin moi j'ai quelques explications par rapport à moi. On a une préparation de 6 semaines. En fait, c'est beaucoup plus que ça. Pour moi, on dure 7, 8, 9 semaines. On est toujours dans la préparation. Alors qu'il y a des clubs, ils font que 5 semaines pour être prêts dès le premier match du championnat. Donc, je pense que Le Havre s'est préparé pour être compétitif tout le championnat. Et Niort s'est sûrement préparé pour prendre des points très rapidement. Maintenant, c'est pareil un peu comme à Caen. J'ai lu une bonne interview de Paul Le Guen dans Foot Normand. Où il donne quelques explications. Et je pense qu'il les assume complètement, avec aujourd'hui un club qui mise sur la formation, qui veut recruter, mais qui ne veut pas faire n'importe quoi. Enfin, on a une équipe ambitieuse, mais qui n'a pas des folies non plus de grandeur et qui veut construire les choses. Et voilà, faut pas, on met toujours Le Havre comme un favori, comme un prétendant. Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils mettent tout ce qu'il faut vraiment pour monter? Je ne sais pas, c'est peut-être une autre politique avec de la formation et pas investir spécialement sur des joueurs. Sur des joueurs, donc
Marc, vous suivez le hack au quotidien. Est-ce que ça vous parle ce qu'est en train de dire le coach là?
bah oui, parce
Est-ce
qu'il y
qu'on
a deux discours.
surestime finalement le hack en les catégorisant favoris chaque année?
Mais clairement, clairement, et il y a toujours deux discours. Il y a toujours président Vincent Volpé qui dit que c'est pas un problème d'argent, et puis derrière, je reprends la citation de Paul Le Guen à la fin du match. Le besoin de recrutement, il est réel. Il y a un marché extrêmement difficile cette année. Il y a beaucoup d'incertitudes qui pèsent sur le fonctionnement des clubs. Voilà. Donc lui, il dit on va pas prendre de risques. Et à côté, le président il dit si, si. Enfin, nous, c'est pas une question d'argent. Donc déjà, quand il y a deux discours entre le manager général, entraîneur, et puis le président, au niveau de l'extérieur, au niveau de la presse, au niveau du grand public. Déjà, on sait que voilà, il y a clairement un souci. Donc oui, c'est une faute de les mettre toujours. Ils donnent pas les moyens. Je reprends ce que dit Coach Gallon. On n'a pas l'impression que le président donne les moyens à Paul Le Guen de réussir sa mission. Il est prudent, mais dans ce cas-là, ça serait bien qu'il dise la même chose que Paul Le Guen. Alors, mais il ne dit pas toujours la même chose.
C'est l'éternel problème aussi.
Mais Paul Le Guen, quand il parle, ça correspond tout à fait à ça. C'est que j'ai l'impression qu'il dit des choses, mais au fond de lui, il pense pas ce qu'il dit. Et ouais, il y a quelque chose qui n'est pas clair. C'est sûr. En tout cas, quand Paul Le Guen dit qu'il est content du projet, de ce qu'il y a à mettre en place, mais je pense qu'il aimerait aussi avoir d'autres joueurs avec un peu plus de vécu et qui lui apportent une ossature d'équipe pour pouvoir jouer les premiers rôles. Donc aujourd'hui, il rentre, quand vous signez dans un club ou vous prolongez, on vous dit bah non, on va jouer les premiers rôles. Le coach va dire oui, on joue les premiers rôles. On ne va pas dire non, je joue pas le maintien. Vous voyez ce que je voulais dire. Il y a tout ça. C'est pour ça qu'on parle de certaines choses, mais il faut vraiment être de l'intérieur pour le comprendre.
Mais on n'en est pas moins, coach, évidemment, quand vous dites qu'il faut être de l'intérieur, nous sommes tous d'accord. Par contre, en tant qu'observateur privilégié de chaque rencontre, Marc, avec le courrier cauchois ou nous-mêmes, au bout d'un moment, les mêmes problèmes ressurgissent toujours, les mêmes paroles ressurgissent toujours. Marc vient de donner la réaction de Paul Le Guen après le match face à Niort, mais c'est la même que celle que Paul Le Guen nous avait donnée à la sortie du match de préparation à Caen, et on était en plein été avec les mêmes problématiques. Donc il y a un moment, voilà, force est de constater peut-être, et là Marc, oui, je vous rejoins, peut-être que l'on donne trop de crédit et que ça doit mettre trop de pression quelque part ou à vrai.
Clairement, ouais. C'est vrai, tout à l'heure, je vous entendais parler des mouvements à Caen. Peut-être il va y avoir des départs, mais ça fait un peu rêver, toi, quand vous annoncez que le Caen cherche à recruter.
On va calmer les ardeurs, parce que les 3-4 dernières années à Caen, les recrutements, on ne peut pas dire que ça a été une savante réussite non plus. Vous voyez, il y a eu beaucoup de mouvements, mais on ne peut pas dire que ça a été de la grande réussite non plus, quoi.
Non, mais c'est pour ça, mais clairement, là, c'est l'attaquant qui cherche, là, parce que Jamal Thiaré, le jour où Jamal Thiaré se blesse, pour l'instant, il joue, il n'est pas blessé, il n'est pas suspendu. Mais le jour où il joue pas, on n'a pas de neuf. Il n'y a pas d'attaquant de pointe. Là, on joue qu'avec une seule pointe. Et c'est vrai que le système de jeu a été changé. Mais voilà, le jour où il se baisse, je ne sais pas comment on fait.
Bon, deux matchs attendent nos amis Akmen, Marc, coach Gallon et vous, Christophe Lécuyer aussi. Deux matchs à l'extérieur d'affilée à Nancy et au Paris FC. Marc, c'est gros programme là.
Ouais, gros programme, mais c'est peut-être une bonne nouvelle finalement, parce que. Peut-être que le système de jeu du HAC se prête à jouer en contre, à laisser le ballon à l'adversaire. On l'a vu à Guingamp, hein. À Guingamp, et en plus, Paul Le Guen l'a dit, c'était prévu, il voulait jouer comme ça. Bon, il y avait certains points qu'il n'avait pas appréciés. Mais voilà, avec Cornet et Alioui, pour les avoir vus, là, parce que bon, quand on regarde le match à la télé à Guingamp, c'est pas pareil que le voir en réel au stade Océane. Oui, c'est clair que ça peut être une très bonne chose. Nancy, bon, en plus... Je vois, ils ont gagné leur premier match là, contre le Paris FC, qui était leader. Et après, on va au Paris FC. Mais non, je me dis, finalement, ça peut être un bien pour un match de jouer à l'extérieur pendant deux journées. Là. On a l'équipe pour leur faire mal.
On perd un peu la cerise du côté du Havre. Deux fois à l'extérieur, c'est pas plus mal, finalement.
Moi, je préfère jouer à domicile qu'à l'extérieur. Hein, mais c'est beaucoup plus simple. Maintenant, quand vous êtes à domicile, alors, c'est marrant, parce qu'on y arrivera sûrement tout à l'heure, mais dans ma formation... Il y en a qui ont fait des études. Pourquoi, quand on jouait à domicile, on était performant et l'équipe jouait? Et pourquoi, quand on jouait à l'extérieur, on n'était pas capable de reproduire le même jeu? C'est quand même incroyable. Juste le fait qu'il y ait la famille dans les tribunes, sa femme, ses enfants, et qu'on est autour de gens qu'on connaît, peut arriver à avoir un déclic psychologique dans la tête des joueurs. C'est quand même incroyable quand on entend ça. Maintenant, est-ce que le jeu du Havre aujourd'hui correspond mieux à une équipe... où ils vont jouer une équipe qui joue, qui va faire du jeu, qui va se déséquilibrer pour être dans la transition et l'attaque rapide, peut-être. Donc, est-ce qu'en ce moment, d'aller jouer à l'extérieur correspond un peu mieux à ce qu'ils recherchent? Je suis d'accord. Maintenant, il y a un truc important, hein, c'est que je pense que moi, il faut du contenu. Il faut de la régularité dans la performance pour pouvoir progresser. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Donc, on manque de régularité dans la performance. Donc, les joueurs... n'arrive pas non plus dans ces circonstances à trouver, trouver des choses positives qui vont permettre de continuer d'accroître ce jeu. Mais que ça vaut aussi pour quand? C'est le contenu et de répéter, d'être de plus en plus performant. Et aujourd'hui, on est un peu en dents de scie. Mais tout ça, encore une fois, pour les deux équipes, est-ce que ça ne vient pas de la préparation, du Covid et d'un état de fatigue du week-end dernier? Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas... l'état de fatigue du week-end dernier, il est à la fois au niveau professionnel, mais il est à la fois au niveau amateur. Donc, il y a peut-être quand même des choses qui correspondent.
Il y aurait bien une corrélation, effectivement. Dernier sujet, messieurs, on va venir dans notre région. Il s'est passé déjà pas mal de choses. Vous le savez, on est en plein dans les élections, les réélections de districts et de ligues. On est dans ce qu'on appelle une année olympique. Les mandats s'achèvent, d'autres vont prendre cours. Marco Beau, du Courrier Cauchois, vous étiez du côté de la Seine-Maritime ce week-end avec une élection coup de tonnerre, j'ai envie de le dire comme ça. Romain Ferré, le jeune président de Ménilénard et sa liste, sont devenus les nouveaux maîtres du football en Seine-Maritime puisqu'ils ont accédé et de manière extrêmement large face à la liste conduite par Jean Liberge, le président sortant. Ils ont accédé, cette liste de Romain Ferré, aux responsabilités du district de Seine-Maritime. D'abord, vous étiez là-bas, seul journaliste. Marc, racontez-nous un peu l'ambiance dans cette élection de district.
Ben, l'ambiance déjà c'était masqué, hein. C'était impressionnant, mais il y avait beaucoup de monde. Moi je suis arrivé à 18h10, c'était 18h30, il n'y avait pas de place sur le parking. Donc déjà ça c'est un signe, il y avait beaucoup de monde. Romain Ferré avait lancé beaucoup d'appels en disant au club venez, malgré le Covid venez masqué, mais il faut du monde. Son appel a été entendu. Il y avait 232 clubs représentés, il y avait 1428 voix sur 1569. Donc
91% ça avait une portée. Voix, oui, c'est ça.
Voilà, donc il y avait des colistiers qui disaient voilà, ça a une portée cette élection, quoi. Ils sont présents, voilà. Et puis en fait, dès le début, on a compris qu'il se passait quelque chose parce qu'il y a le rapport moral de Claude Michel, qui est l'ex maintenant secrétaire général, qui fait son rapport moral et il a été approuvé pour 57 petites voix, 693 contre 636. Ça a été, il y a eu des petits applaudissements. Il y avait un malaise qui commençait à arriver dans la salle. Et après, il y a eu le rapport financier voté contre. C'est quoi les chiffres? 608 contre 730. Et alors le budget prévisionnel, 304 pour, 1058 contre.
C'est à quelque chose près. Ce qui allait se produire.
C'est voilà, à quelque chose près. Et 1060 voix et 331 pour Liberge et 1060 voix pour la liste de Romain Ferré. C'était pareil. Et donc là, on a entendu, il y a eu un bruit dans la salle et tout le monde avait compris. Et après, il y a eu un long monologue du secrétaire général, alors qu'on les représentants de club attendaient qu'une seule chose, c'est de voter. Et puis, donc elle est apparue après sur le grand écran, 1060 voix pour la liste de Romain Ferré et 331 pour la liste de Jean Liberge. C'était une évidence. Pourtant, Romain Ferré a parlé, parce qu'ils ont eu. C'était en accord, hein, ils s'étaient mis d'accord, les deux candidats, pour parler, alors que normalement, ce n'est pas prévu dans les statuts. Et Romain Ferré, qui est pourtant très à l'aise, vous allez apprendre à le connaître, et j'ai trouvé. Il n'a pas été bon, en fait, au micro. Il avait la voix qui tremblait, on sentait un peu. Il était tendu. Et après, il m'a dit, c'était de l'émotion, en fait. Il dit, c'est vrai que je ne suis pas habitué, et il n'était pas habitué. Et pourtant, Jean Liberge, il a fait son speech naturellement. Les gens, quand ils sont à la décision. De voter. C'est un vote sanction, hein, clairement. C'est un vote sanction. Il y avait une rupture avec l'instance du district de Seine-Maritime et c'est un vote sanction, clairement.
Christophe Lécuyer, RMC Sport, question simple pour vous et on ouvre le débat, messieurs. Vous venez vous y inviter, vous, coach Gallon, si vous le souhaitez. Évidemment, vous, Marco Beau. Et vous, Christophe Lécuyer, je commence avec vous. Est-ce que la Seine-Maritime part à la conquête de la Ligue de Normandie face à Pierre Lorest, selon vous?
Franchement, j'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Ça paraît un peu surréaliste tout ce qui se passe là, quand même en ce moment. Moi, je ne connais pas Romain Ferré, donc je ne peux pas le juger. Je suis quand même effectivement surpris du résultat si flagrant parce que, effectivement, on m'a parlé de votre sanction, mais enfin, c'est un tel écart, c'est assez incroyable. C'est la démocratie, il y a deux listes. Après tout, les clubs au moins avaient le choix, ils se sont prononcés, ça c'est très bien. J'espère juste, c'est que la candidature de Romain Ferré, elle ne repose pas juste sur un esprit de vengeance. En fait, j'espère juste que c'est ça, que c'est pas juste parce qu'il a été déçu de sa non-montée. Parce que ça, je peux le comprendre. En plus, on était les premiers à dire que c'était terrible pour le Ménilénard. Ça, là-dessus, on est tous d'accord. Mais c'est pas juste ça qui justifie d'aller à la conquête du district de Seine-Maritime aujourd'hui et de la Ligue de football demain. Je pense pas, mais encore une fois, je ne connais pas assez la situation. Maintenant, ça ressemble quand même un peu à ça, parce que je crois que, mais Marc connaît mieux le dossier que moi, qu'il part avec François Sportello, avec Lionel Chandelier, avec des gens qui étaient quand même déçus de ce qui se passait à la Ligue.
Des démissionnaires du bureau directeur de la Ligue aujourd'hui. Justement, Marco Beau, Vous répondez à ma question, vous. Est-ce que la Seine-Maritime et Romain Ferré partent en conquête de la Ligue de Normandie face à Pierre Lerestheux?
Ils travaillent dessus, clairement. Moi, c'était ma question vendredi soir. La Ligue, maintenant, il me dit, on travaille dessus, on cherche un nom. Ils cherchent un nom. Pour moi, ce ne sera pas Romain Ferré, parce qu'il s'est tellemment battu pendant
oui,
4 mois
pour la présidence. Oui, mais il sera quand même dans l'équipe.
La liste.
On peut même pas l'imaginer.
Oui, mais ça ne sera pas la tête de liste, c'est ça que je veux dire. Il ne sera pas la tête de liste. Il cherche un nom. Il cherche un nom. Lionel Chandelier, qui était aussi présent, Christophe en a parlé, il était présent. Il a démissionné au mois de mai. Il m'a encore fait écouter l'enregistrement des groupes à 14. Enfin voilà, il a toujours l'enregistrement. Et oui, on sent qu'il y a une dent. Donc oui, ils travaillent dessus. Après, est-ce qu'ils vont réussir à monter une liste? Parce que c'est très court. Hein. Pour déposer les candidatures, c'est jusqu'au 7 octobre.
Et, l'Assemblée
générale, c'est le 6 novembre. Là, la liste, là, ils n'ont pas arrêté de me répéter. Pour la Seine-Maritime, ils ont travaillé pendant 4 mois. Ils ont fait une véritable campagne électorale du lobbying, ils ont été voir tous les clubs et tout.
Là, donc c'est vous êtes en train de me dire, Marc, que c'est pas possible de faire la même chose en 15 jours avec un territoire de 5 départements. Parce que, faut être clair, Romain Ferré, il est très connu en Seine-Maritime, très connu dans l'Eure, mais pardonnez-moi de vous le dire, Marc, et vous êtes très bien placé pour le savoir, dans le Calvados, la Manche et l'Orne, on ne le connaît pas, Romain Ferré.
Mais justement, mais c'est pour ça que c'est la force de Pierre Lerestheux. Après, c'est vrai que nous, en Haute-Normandie, alors là, je vais faire haute et basse, hein, okay, il y a eu la réunification, mais haute et basse. De toute façon, les Hauts-Normands ont toujours l'impression que la Ligue de Normandie appartient aux Bas-Normands. Et que, en fait, les Hauts-Normands sont fait avoir.
Vous pouvez Christophe, dire, c'est vrai, ça pouvez, les Hauts-Normands
vous pouvez, parler, vous pouvez parler avec tous les clubs, on a cette impression-là en Haute-Normandie. Donc voilà, et c'est vrai que voilà, c'est quand même cet avantage que bah, la Ligue de Normandie est à Lisieux, c'est Pierre Lerestheux. Enfin voilà, c'est quand même un avantage.
On est dans ce que vient de dire Christophe. Christophe, là, dans ce que développe.
C'est pas une vengeance.
On
pas
est
une vengeance.
Dans cette idée-là, en fait.
Dans le duel, mais ouais, pas de la vengeance. C'est pas une vengeance.
Ça a tellement été bancal d'emblée, cette histoire de fusion, que vous savez, je pense que si à l'époque Jacky Servo avait été élu président de la Ligue de Normandie, les bas normands auraient pensé ce que les hauts normands pensent aujourd'hui. Donc quand ça part sur des bases comme ça, c'est encore une fois, franchement, c'est tellement compliqué. Maintenant, voilà, je vous dis, j'espère juste que ça ne s'appuie pas juste sur un esprit de vengeance, parce que ça ressemble à ça. Mais vu de l'extérieur, encore une fois, nous, on est dans le Calvados. Je pense que si les clubs se sont exprimés avec une telle force, c'est quand même qu'il y avait un vrai malaise en Seine-Maritime, même si on est tous d'accord pour dire que c'est comme dans une campagne électorale. Hein, ceux qui votent, ce sont avant tout les mécontents. Hein, ceux qui n'ont pas forcément d'avis, ils restent chez eux. Donc évidemment, c'est souvent les mécontents qui vont voter. Donc ça peut expliquer en partie, mais là quand même, le résultat est flagrant. Mais oui, je reviens à ce que... Précision quand même, ça va être rock'n'roll, parce que Romain Ferré, il va quand même devoir cohabiter un temps soit peu avec Pierre Lerestheux, parce que le président du district, il siège de plein droit au comité directeur de la Ligue. Donc ils vont quand même se retrouver tous les deux autour de la table pendant quelques temps. Donc ça promet quelques comités directeurs animés quand même en Ligue de Normandie.
Est-ce qu'ils vont se serrer la main? Parce qu'à Cagny, ils ne sont pas serrés la main, ils ne sont pas salués. Donc ambiance, quoi. Très, vraiment. Romain Ferré me l'a dit, il me dit il n'est pas venu me voir, je ne me voyais pas aller le voir non plus. J'ai dit d'accord. Donc ça commence bien, quoi. L'ambiance est bonne.
Ça commence très fort, cette campagne électorale de Ligue de Normandie. Évidemment, on la suivra dans cette émission Club Foot, l'émission évidemment de tous les footeux de Normandie. Et on va terminer avec un sujet particulier, parce que vous le savez, notre coach Gallon, notre consultant, il vient d'intégrer la formation du BEPF, le seul diplôme en France qui permette d'entraîner en Ligue 1 et Ligue 2. Eh ben, le coach, il a passé sa première semaine de formation. Racontez-nous, allez, en quelques mots, coach, pour finir cette émission, c'est comment la formation pour devenir entraîneur d'une équipe professionnelle?
C'est extraordinaire.
Voilà, ah ouais,
c'est le summum de ce qu'on peut faire dans notre métier. C'est une formation enrichissante à un point où j'ai l'impression que chaque minute, j'étais comme une éponge, j'ai absorbé. On a des formateurs, quand vous touchez chaque domaine, parce que vous touchez un domaine assez large, hein, vous touchez au niveau médiatique, vous avez Philippe Bruet pendant 2h30 avec vous, vous touchez tout ce qui est le leadership, vous avez Monsieur Bélanger qui est maître de conférence dans les plus grandes entreprises multinationales. Enfin, tous les domaines que vous touchez, parce que il y a la partie entraînement, mais il y a toute la partie médiatique, cohésion, langage, enfin tout est abordé et vous êtes avec les meilleurs. Donc vous pouvez que écouter, que progresser. Ça, c'est la première chose. Les parties terrain, quand vous avez Francis Gillot, Lionel Rouxel, on a eu aussi la présence d'Alain Casanova, c'est formidable de partager avec ces gens-là, c'est là que vous apprenez. Vous apprenez aussi au sein de vos collègues, parce que ben là, j'ai l'impression qu'on est 10, et j'ai l'impression qu'il nous manque un joueur, mais on est une équipe. Donc on est tous solidaires. On est tous partis dans le même bateau et on est tous prêts à céder. Et je retrouve une cohésion comme si j'étais dans une équipe avec un état d'esprit remarquable. Est-ce que c'est dur? Oui. Est-ce que c'est très fatigant? Oui. Juste une petite anecdote, quand on passe en pédagogie, c'est-à-dire en action sur le terrain en tant qu'entraîneur, vous passez avec le micro, il y a des haut-parleurs autour du terrain, vous êtes filmé et vous faites des retours sur les séances de vos collègues. Donc, sous PowerPoint, tout ça. Et moi, donc, il fallait que je fasse le retour le vendredi matin. Et j'ai travaillé jusqu'à 2h30 du matin pour faire le retour de mon collègue. Et à 7h30, j'étais en salle. Et tous les jours, ça ne s'arrête jamais. Donc voilà, c'est des semaines. Et là, je ne vous dis même pas le travail que j'ai à faire tous les jours. Mais bon, ça va être ce qu'ils font d'habitude en 14 mois. On va le faire en 9 mois. Dans 15 jours, je suis à Sochaux. Dans un mois, je suis à Standard de Liège. Entre deux, je suis à Clairefontaine. Donc voilà, pour moi, c'est magique. C'est déjà une reconnaissance du milieu, et ça, c'est important. Et puis, c'est une fierté personnelle et une fierté pour ma famille. Voilà, tellement de gens qui ont cru en moi que... Voilà, mais c'est juste là. J'ai beaucoup d'humilité par rapport à ce qui m'arrive, mais ça me donne encore plus à... Dans notre métier, on dit la dalle. Et puis, j'espère que les portes s'ouvriront un jour, ou peut-être pas, mais en tout cas, j'y suis. Et quand on a un parcours de vie comme le mien, parce que personne n'est au courant de trop... C'est quelque chose de fabuleux. J'ai été chercher quelque chose que peu de personnes pensaient que j'étais capable d'aller chercher.
Alors, voilà, en tout cas, maintenant, il y aura juste à la faire, cette formation. 955 heures, c'est ça. Ça fait quand même pas mal de semaines d'ici la fin de saison. Vous viendrez nous les raconter, évidemment, parce que dans les semaines où vous ne serez pas au Standard de Liège ou à Sochaux, vous serez avec nous dans cette émission Club Foot. On vous remercie, en tout cas, vous, coach Gallon, évidemment. Et puis vous, Marc Aubo, on se dit à très vite, évidemment, dans cette émission. Christophe Lécuyer d'RMC Sport, merci beaucoup aussi à vous d'être venu débattre du Stade Malherbe, du foot en région et du HAC. On se dit très belle semaine et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures en ballon rond en Normandie. Salut.
Podcast by Tendance Ouest.